Omega FM, la fréquence de vie, la radio qui vous accompagne. Le sida s'est répandu au Togo à une vitesse exponentielle ces dernières années. Les pouvoirs publics se sont lancés dans des campagnes de sensibilisation, mais les résultats ne semblent pas être à la mesure de leurs attentes. Dans ces circonstances, certaines voix s'élèvent pour une conjugaison des efforts impliquant à la fois les pouvoirs publics, les établissements scolaires, les religions et bien d'autres structures. Pasteur Jean Bandé est le vice-président de la faculté de théologie à l'École supérieure de théologie de l'Afrique occidentale, l'ESTAO, à Lomé. Enseignant et pasteur titulaire de la chapelle internationale de ladite institution, il nous fait part de son expérience en tant qu'homme d'église en lutte contre le sida, de ce qui est fait au quotidien au sein de son église et de la place des églises dans la lutte contre le sida.
Oui, et le sida n'est pas seulement répandu au Togo, mais partout en Afrique. Et comme le dit un panneau publicitaire, ou plutôt une publicité d'une église nationale, le sida, c'est l'affaire de tous. Et je crois que dans l'église, il y a plusieurs membres de la société civile qui fréquentent notre église. Et y compris les malades du sida. Et nous avons constaté que plusieurs membres souffrent de cette maladie parce que nous avons un comité de visite aux malades qui est un des départements de l'église locale ici, à l'ESTAO. Et en visitant les malades, nous avons constaté qu'il y a beaucoup qui souffrent du sida. Il y en a plusieurs également qui meurent du sida, qui sont rejetés, qui sont seuls. Et nous nous sommes penchés sur ce problème et nous avons décidé de faire quelque chose. Et alors nous avons assis une association médicale et paramédicale au sein de l'Église et pour aider l'Église à lutter contre le sida. Cela fait quand même quelques années que nous avons assis cette association de médecins dans l'église. Depuis que les fidèles ont su qu'il y a un service au sein de la chapelle pour s'occuper d'eux, pour s'intéresser à leur cas, même avant d'ailleurs l'assise de cette association, nous avons des membres individuels qui viennent nous voir, nous les pasteurs, et qui souffrent de sida et qui viennent avec des ordonnances. Et c'est à partir de là aussi que nous avons commencé à percevoir que le problème était assez sérieux et au sein de l'église. Et nous avons commencé donc à prendre soin et autant que l'on peut, et selon les limites aussi de nos moyens financiers, à prendre soin des malades du sida en les aidant avec leurs ordonnances médicales. Et mais, donc, depuis que nous avons assis cette association des médecins, et le service est beaucoup plus facile et il y a plusieurs malades qui viennent nous rendre visite. L'assistance que nous leur donnons est à deux niveaux. Et tout d'abord, nous prions pour eux, nous leur apportons un soutien moral et spirituel, ce qui est plus important parce que psychologiquement, ils se sentent soutenus, ils se sentent moins isolés. Et lorsque on s'assoit, on prend du temps pour leur parler, pour les écouter. Et il y a certaines personnes, certains malades qui sont fort étonnés que quelqu'un qui sait qu'ils sont atteints de sida prenne le temps quand même de rester avec eux, de causer avec eux, leur donner espoir en priant pour eux. Et ensuite, la deuxième étape qui est aussi importante que la première, c'est de pouvoir les assister dans les achats de leurs produits, de leurs médicaments. Parce que ça coûte cher, c'est vrai, et certains n'ont même pas les moyens pour faire les analyses nécessaires pour connaître le développement de leur situation. Et nous essayons de les assister, de les aider dans ce domaine-là. La première personne qui est venue nous rendre visite, il n'a pas commencé à parler du sida. Il n'a même pas commencé à dire qu'il est malade. Il a commencé à nous parler de ses besoins financiers. Il voulait manger. Et nous lui avons donné quelque chose pour qu'il aille manger. Et donc, petit à petit, il est arrivé à nous dire qu'il est malade. Et il nous a apporté ses résultats de tests de sida. Et quand nous avons reçu ces résultats, on l'a montré à un médecin qui est membre de l'église et qui a confirmé effectivement que son cas était assez sérieux et que c'était déjà déclenché. Alors nous avons donc essayé à partir de ce moment de l'aider un peu plus sérieusement pour l'achat de ses produits et pour les frais de ces différentes analyses. Et tout en priant pour lui, et nous l'avons plus entouré spirituellement et moralement. Et il ne travaillait plus. Selon lui, il avait été vidé de son service, justement à cause... il travaillait dans la restauration. Il ne pouvait plus continuer à travailler dans la restauration. Et nous l'avons aidé avec un petit fonds de commerce et pour qu'il puisse... et acheter du charbon dans les campagnes, venir le revendre en ville avec un petit bénéfice. Et cela l'a aidé quand même à vivre au moins pendant un an sans soutien, sans un autre soutien de la chapelle. Il était devenu indépendant. Mais au fur et à mesure que la maladie s'aggravait, il ne pouvait plus continuer à faire ses petits commerces. Alors nous avons donc recommencé à l'assister financièrement pour l'achat de ses médicaments. Bon, cela fait environ 6-7 ans qu'il vit dans cette situation. Et aujourd'hui, il est toujours vivant. Et chaque fois, il vient nous remercier de ce que, à cause de notre soutien matériel et moral, il se sent moralement fort. La plupart de ces malades ne parlent pas de leur maladie, sauf un ou deux cas où quand c'était déclaré, et il y a une sœur qui est venue et qui a dit voilà, elle était accompagnée de sa mère, dit voilà c'est le sida. Et mais nous en tant que pasteur, homme religieux, moi je ne veux pas dire tout de suite que c'est une maladie, c'est une punition ou un jugement de Dieu. Et si on veut le voir sous cet angle, je dirais toute forme de maladie est un jugement de Dieu, même les simples maux de tête. Si on repart à ce qui s'est passé à la création, à la chute de l'homme, c'est parce que l'homme a chuté que toutes ces choses-là nous arrivent. Donc on ne peut pas simplement dire que isoler le sida pour dire que le sida est une punition de Dieu et laisser les autres maladies. Et je crois que ce que nous devons faire, c'est plutôt les aider et à avoir la paix avec Dieu. Même si c'était par une imprudence, un vagabondage sexuel qu'ils ont contracté cette maladie, et ce n'est plus la peine, une fois qu'ils ont contracté la maladie, de les condamner. Il faut plutôt les aider et à sortir de cet engrenage spirituel et leur donner surtout l'opportunité d'avoir la paix avec Dieu, de se concilier avec Dieu et d'avoir cette assurance dans leur cœur que Dieu a pardonné. Et même s'ils ont commis des péchés, Dieu est un Dieu de pardon. Donc ce n'est pas notre responsabilité de les pilonner encore au mur, et soi-disant que le sida est un jugement de Dieu et pour eux. Ça, c'est ma position.
Non, Vigny. Yemenya Ololo. Eata. Zonlema au PCAODI. Tchachoki. Kubobonini. Eniniato. Nsiokata. Leyo Wasibi. Doto, merci.
Dans l'Église, nous faisons des sensibilisations régulières et sur la lutte contre le sida. Le sida, c'est l'affaire de tous. Et quand on voit les rapports et que l'on lit un peu partout, quand on écoute les médias, nous connaissons le mode de transmission du sida. Et au lieu de chercher à guérir le sida, nous cherchons avant tout à prévenir le sida. Et nous savons tous que c'est notre comportement sexuel qui peut précipiter ou qui peut occasionner la transmission du sida. Alors nous donnons des conseils dans nos prêches à la jeunesse, aux adultes, dans leur comportement sexuel. Et puis, et bien sûr, il y a les médias qui parlent d'une prévention en utilisant les condoms ou les capotes ou les préservatifs. Nous utilisons une autre approche. Et au lieu de laisser, au lieu de les encourager à utiliser les préservatifs, nous attaquons le problème dès sa racine. Le comportement, nous prêchons l'abstinence sexuelle, nous prêchons la fidélité sexuelle et entre les couples mariés. Et nous conseillons plutôt aux jeunes couples, ou plutôt aux jeunes gens non mariés, de pratiquer l'abstinence sexuelle. Et selon les études sociologiques et psychologiques, et c'est la meilleure méthode qui puisse préserver notre société du sida. Et surtout que l'on lit quelquefois que même les capotes, les préservatifs ne sont pas à 100% sûrs. Et donc notre rôle dans l'Église, c'est d'enseigner une morale sexuelle biblique. Et c'est cela que nous faisons. Et donc, assez souvent, j'ai dit aux jeunes, dans la sensibilisation, d'éviter le vagabondage sexuel, de se préserver, de se garder, de pratiquer le sexe avant le mariage, et aux couples mariés d'être fidèles l'un à l'autre. Dans l'Église, nous laissons la publicité des préservatifs aux autres. Et les autres font et la publicité des préservatifs sans parler de la morale. Alors nous essayons de combler le trou en parlant de la morale et nous laissons le cas des préservatifs aux autres. Mais concernant les préservatifs, et dans les couples mariés, nous considérons le préservatif comme un moyen de contraception. Là, un couple qui est marié peut utiliser le préservatif pour éviter d'avoir des enfants. Et c'est cela d'ailleurs le but primordial de la création du préservatif. Quand ils ont fabriqué le préservatif, le sida n'existait pas. C'était un moyen préservatif, de contraception. Et moi, je les prends toujours sous cet angle-là. Et je crois que notre mission en tant que, qu'Église, c'est d'attaquer le mal à la racine et à la base. Et parce que il y a des choses, quand même, il faut se dire la vérité, il y a des choses, beaucoup de choses, de vérités scientifiques qu'on ne dit pas sur les préservatifs. Même les médecins, même la science, le dit que ce n'est pas sûr à 100%. Comment pouvons-nous faire une chose qui n'est pas sûre à 100%? Nous ne nous sentons pas consensueusement encouragés à le faire. Bien que nous luttons contre le sida, il y a toujours des malades atteints qui fréquentent nos églises. Nous prêchons et des malades atteints viennent se convertir et deviennent membres de notre église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas les abandonner. Il faut s'occuper d'eux. Et ainsi, nous avons une équipe d'animateurs, de médecins qui organise des séminaires. Donc, au sein de notre église, nous avons organisé d'abord un séminaire qui a duré quelques jours. En général, ce séminaire dure une semaine. Et ce séminaire a formé d'abord tous les pasteurs et leurs épouses, tous les diacres et leurs épouses, et sur la manière de prendre soin des malades du sida. C'est une approche pastorale et que nous faisons. Et là, à la fin de ce séminaire, ils reçoivent un certificat de participation. Ça veut dire que pendant cette formation, nous avons appris ce que c'est que le VIH-Sida. Nous savons comment le sida est transmis et nous savons comment nous occuper des malades de sida, comment le manipuler et comment conseiller un malade de sida pour qu'il ne se sente pas seul. C'est tout ça que nous avons appris. Et puis ensuite, nous sommes maintenant chargés de donner un séminaire à tous les départements de la chapelle, de l'église locale. Donc nous avons donné un séminaire au département des femmes, au département de la jeunesse, au département des enfants, même les enfants de l'école du dimanche. Nous organisons un séminaire pour les enfants. D'abord, on a organisé un séminaire pour les moniteurs d'école du dimanche. Et ensuite, on a adapté ce séminaire pour les enfants, pour que les enfants aussi sachent ce qu'est le sida, comment faire pour ne pas contacter le sida, et comment faire aussi pour s'occuper des malades du sida. Parce que les gens pensent que un sidéen, c'est de la peste. Alors que non, ce n'est pas une peste, ce n'est pas en touchant un malade du sida qu'on contacte le sida. Ce n'est pas en mangeant avec lui qu'on contacte le sida. Donc, c'est toutes ces informations que nous devons aussi communiquer aux autres. Et nous essayons de dire à toutes les églises qu'au fait, l'église a une mission fondamentale dans sa participation à la lutte contre le sida. Et nous sommes là, disposés à aider toutes les églises locales, tous les pasteurs qui veulent avoir des renseignements, une éducation particulière sur les malades de sida. Le sida est considéré par la société comme une maladie honteuse, une maladie du sexe. Si quelqu'un apprend que vous avez le sida, tout de suite, il pense au sexe. Bon, c'est vrai que c'est le sexe qui est le facteur prédominant de la contamination du sida. Et même si quelqu'un a reçu le sida par par voie sanguine, ils ne le prennent pas sous cet angle-là. C'est toujours une maladie honteuse. Et donc, tout le monde commence à vous fuir. Et tout le monde commence à vous considérer comme un grand pécheur. Et c'est cela qui fait que les gens ont peur. Et aussi, ils ont peur de parler de leur maladie, de peur d'être rejetés par leur famille, par leur société. Et certains même perdent leur emploi. Lorsque l'employeur apprend qu'un de leurs employés est atteint de sida, alors ils feront tout pour le vider de la boîte. Et même dans le couple, et lorsque un conjoint apprend que l'autre conjoint est malade de sida, c'est le rejet total, c'est le divorce, etc. C'est vraiment pitoyable et tragique. Mais il faut qu'on donne de l'assurance aux malades et il faut aussi qu'on donne de l'assurance à la population. À la population qui a même peur de faire le test. Le test de dépistage. Ils ont peur parce qu'on ne sait pas quel sera le résultat. Si on est déclaré positif, c'est fini. Alors, on a peur. Et je crois que c'est ça qui anime en général l'esprit des malades et même des non-malades. Chaque personne craint intérieurement le sida. Qu'est-ce qu'on fera de moi si on sait que je suis atteint de sida, ou bien si je suis séropositif, qu'est-ce qu'on va faire de moi? C'est cette peur-là qui fait que les gens ne veulent pas parler de leur maladie. Et dans un certain sens, je le comprends, parce qu'ils sont conditionnés par la réaction de la société. Comme je le disais tout à l'heure, nous prenons en charge autant que l'on peut des malades atteints et du VIH-Sida. Mais il y a d'autres services, des ONG chrétiens qui s'occupent par exemple de l'aspect de prise en charge des orphelins de sida et des veuves de sida. Mais autant que l'on peut, on essaie de faire. C'est vrai que nous avons le service social dans l'église qui aussi s'occupe de certaines veuves, qu'elles soient veuves de sida ou pas, comme la parole de Dieu le dit, de nous occuper de toutes les veuves, des orphelins. On le fait autant que l'on peut. Mais particulièrement concernant les veuves du sida et les orphelins du sida, il y a cette ONG qui avec l'aide internationale et l'aide aussi de quelques frères et sœurs des églises locales, arrive à prendre soin des cas les plus désespérés. Car qu'est-ce que l'on voit? Et un mari qui meurt de sida et qui laisse sa femme et ses enfants, ses veuves, ses orphelins, pardon, sont automatiquement rejetés et par toute la famille. La solidarité africaine n'existe plus en ce moment-là. Alors que ce n'est pas parce que l'homme, le père, est mort de sida qu'automatiquement on considère que la femme et les enfants sont atteints de sida. Il y a eu des cas où la femme a été testée négative, séronégative, ainsi que les enfants. Mais au lieu que la famille prenne soin de ses enfants et de ses veuves, on les laisse parce que le mari est mort de sida. Et dans ce cas, bon, l'Église est arrivée à aider et à sauver des vies en donnant une assistance financière, en facilitant la scolarité des enfants, et en facilitant aussi le logement de ces familles-là, de ces veuves et de ces orphelins. Au fait, au niveau du Togo, par exemple, il y a un service de la lutte contre le sida et dans lequel toutes les églises participent. Et il y a des rencontres régulières et les assemblées de Dieu sont représentées. Et les églises se rencontrent pour discuter et pour savoir la lutte à mener ensemble, et pour essayer d'enrayer le sida. Oui, les églises se rencontrent, et nous-mêmes ici, à notre niveau, et on va aussi dans les villages, dans les campagnes, et on rencontre aussi des églises locales, des villages, pour leur apporter soutien, surtout lorsque l'on reçoit des visites des médecins de l'extérieur. On va dans les villages, on donne gratuitement des soins. Et on profite aussi pour donner une éducation, une sensibilisation sur le sida. Si les églises se mettent ensemble et si les églises prennent le cas de sida à cœur, nous pouvons, ensemble avec nos autorités, lutter efficacement contre le sida. Et je crois que l'Église peut mettre un impact beaucoup plus profond dans la lutte contre le sida, du fait que l'Église semble être le dernier recours des malades. Et c'est à nous, au lieu de les condamner, de condamner le sida, de juger le sida comme une malédiction divine, et essayer de prendre ces malades du sida comme des êtres humains, comme des âmes qui ont besoin de la réconciliation avec Dieu, et des âmes qui ont besoin de la paix de Dieu dans leur cœur. Ils sont déjà condamnés. Pourquoi alors les condamner de nouveau? Et je crois que l'Église peut aider à lutter ensemble pour que ce sida-là disparaisse de notre continent africain.
C'était le témoignage du pasteur Jean Bandé, vice-président de la faculté de théologie à l'École supérieure de théologie de l'Afrique occidentale, qui nous évoquait son combat face à cette véritable pandémie et la place de l'Église dans ce combat. Omega FM, la fréquence de vie, la radio qui vous accompagne.